Publicité.
Attention, entrepreneurs et professionnels de la comptabilité, il est temps de transformer votre gestion d'entreprise avec Akumbago, la solution web 100% québécoise conçue pour vous. Depuis plus de 35 ans, Akumbago soutient les PME d'ici en vous offrant un écosystème complet pour optimiser chaque aspect de vos opérations. Facturation flexible, gestion des clients, fournisseurs et bien plus. Choisissez le forfait qui vous convient et bénéficiez d'un service de qualité en français depuis le Québec. Visitez dès maintenant akumba.com pour découvrir leurs solutions ou planifier une démo. Akumbago, l'allié des entrepreneurs du Québec. Parlons maintenant d'une révolution silencieuse accélérée pendant la pandémie. L'essor du travail à distance. Cette nouvelle possibilité nous a ouvert les portes d'une liberté nouvelle, redessinant les frontières entre le travail et le voyage. Et il y a deux semaines environ, j'ai vu un article sur le sujet sur le site avenue.ca, rédigé par la journaliste Marie-Julie Gagnon. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'approfondir ce sujet-là avec elle. Alors, je l'ai invitée pour en jaser. Bonjour, Marie-Julie Gagnon.
Bonjour, Bruno.
Marie-Julie, quand je pense à nomade numérique, tu es probablement la première personne qui me vient en tête parce que depuis que je te connais, puis là, ça commence à faire un bon moment, je t'ai toujours vu partir à quelque part en train d'en ramener des histoires ou sinon en train d'écrire un nouveau livre. Ça fait longtemps, toi, que tu fais partie de cette communauté de gens qui télétravaillent à l'extérieur de leur domicile à eux, là.
Bien, je pense que plusieurs journalistes ont fait un peu la même chose depuis toujours. Je pense juste à des collègues qui envoyaient des reportages vidéo même. C'était plus compliqué. Ça, je l'ai fait même à une certaine époque, au début des années 2000. Donc oui, il y avait l'écrit, mais la vidéo, c'était plus compliqué. Il fallait envoyer des reportages physiques, des cassettes avec des plans rédigés.
Des plans de montage,
Oui, des plans de montage pour que ça puisse être monté une fois à Montréal. Ce genre de choses-là, je pense, pour les journalistes, ça fait partie de la vie depuis longtemps. Dans mon cas, comme je suis une journaliste pigiste, puis je me suis toujours beaucoup intéressée à la technologie, c'est quelque chose que très tôt j'ai intégré dans mes voyages, effectivement. Puis comme même en voyage, je ne pouvais pas m'empêcher de tomber sur des sujets de reportage ou même dans un contexte de vacances ou de stage, je me retrouvais toujours un petit peu à travailler parce que j'en avais envie, puis j'avais surtout cette espèce de pulsion de partager ce que je découvrais. Donc, j'ai des souvenirs à la fin des années 90, à Ouagadougou, où l'Internet était plutôt lent pour envoyer mes textes à fille d'aujourd'hui à l'époque.
Mais particulièrement dans ton domaine aujourd'hui, la pratique du télétravail, c'est difficile de faire autre chose là, quand on est dans le domaine du voyage. Si on veut vraiment arriver à produire, tu te retrouves à toujours écrire outé pour livrer ce papier-là puis passer à une autre destination ensuite.
Bien, le journaliste voyage à la pige, c'est une drôle de bibitte cette affaire-là, parce que souvent, on part en sachant pas précisément quand notre reportage va être publié. On sait qu'on a un oui d'un média quelconque ou de plusieurs médias, mais la date de publication est toujours un peu nébuleuse, mais parfois c'est concret, ça dépend. Il y a pas, je dirais, un modèle qui existe pour tous les médias qui est uniforme. Mais ça veut dire que parfois, je me retrouve, oui, à écrire sur place le reportage sur la destination où je me trouve, mais ça arrive aussi que je dois écrire un article que je dois livrer sur une autre destination alors que je suis à l'autre bout du monde. Il y a toutes sortes de situations comme ça qui peuvent être possibles. Puis ce que j'ai eu envie de faire aussi ces derniers temps, la pandémie a quand même apporté une espèce de liberté d'un mouvement pour beaucoup de monde. Là. Puis là, pas seulement pour les journalistes. Puis je le constate aussi quand je voyage parce que j'ai beaucoup plus d'opportunités d'aller travailler dans des espaces créés pour les gens justement qui ont envie de télétravailler. On pense bien sûr aux espaces de coworking qui sont très, très populaires depuis une dizaine d'années. On voit ça émerger un peu partout sur la planète. Mais même parfois des hôtels auxquels on pense pas forcément ont installé cette pratique-là. Puis pendant la pandémie, il y a carrément des hôtels qui sont devenus des lieux de télétravail aussi. Donc, on sent que la pandémie a amené une espèce de facilité pour les gens qui ont envie de télétravailler ailleurs. Puis oui, cet hiver, je l'ai fait, là. J'avais beaucoup, beaucoup de reportages à livrer. Je suis allée deux semaines en Colombie. Je me suis installée dans un endroit où je savais que j'aurais un excellent Internet, vraiment un excellent accès à tout, en fait. Internet, la bouffe pas loin, du café, un lit qui était presque dans le même bâtiment. Comme ça, ça m'a permis vraiment d'écrire sans distraction puis de livrer les reportages que je devais livrer. Donc, il y a aussi tout ça qui a été facilité, je dirais, depuis la pandémie.
Donc, c'est pas une illusion. Les conditions se sont améliorées pour les gens qui veulent aller travailler à l'extérieur.
Ouais. Puis, tu sais, une chose aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est que l'ouverture des employeurs en général a permis aussi l'émergence je dirais pas de programmes, parce qu'il y en avait plein qui existaient déjà, mais disons de marketisation de ces jours de télétravail-là de façon un peu plus frontale. C'est pas quelque chose que tout le monde disait nécessairement, ah, je m'en vais travailler. Oui, je connais des écrivains, par exemple, qui allaient une semaine ou deux dans le sud pour écrire sans distraction, si on l'a vu, mais c'est des gens peut-être un peu plus privilégiés qui le faisaient. Mais là, ce qu'on voit, je pense à Vaolo, par exemple, qui est un site où on trouve plein de petits hébergements villageois. Donc, c'est un site qui a été créé vraiment avec des valeurs liées au tourisme durable. On veut mettre de l'avant des hébergements responsables, mais aussi souvent tenus par des particuliers ou vraiment des petits groupes. Et c'est un peu partout à travers le monde. Donc, c'est un réseau qui a été créé au Québec. Et eux, ce qu'ils ont eu envie de faire dernièrement, c'est de rassembler. En fait, ils ont contacté certains de leurs membres parce que c'est pas comme les bookings de ce monde là où on retient un pourcentage lorsqu'on loue. Eux, c'est vraiment dans une optique de faire connaître et de mettre en lien les voyageurs et les gens qui ont quelque chose à offrir aux voyageurs. Et donc, ils ont créé des espèces de forfaits de télétravail. On peut aller fouiller sur leur site et on va trouver une liste d'hébergements à 50% de rabais dans des périodes où il y a moins de voyageurs. Ça, c'est moi ce que je trouve dans les exemples win-win là, en bon québécois, là. Je trouve ça très, très positif de créer ce genre de forfait-là. Puis, il y en a au Québec là, parmi leurs forfaits proposés. C'est-à-dire qu'on va occuper un espace qui ne serait probablement pas autrement. Donc, l'endroit, que ce soit un hôtel, un petit gîte ou une auberge, parce qu'il y a beaucoup d'auberges aussi dans tout ça, va avoir des clients, mais avec justement un prix réduit pour les gens qui n'auraient peut-être pas pensé à aller là forcément, mais qui cherchaient un endroit tranquille où écrire ou poursuivre un projet, que ce soit d'écriture, que ce soit, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Je voyais des architectes aussi maintenant qui font ça, des gens de tous les domaines qui s'en vont comme ça travailler ailleurs, soit pour changer d'air, pour renouveler l'inspiration aussi, et parfois juste pour trouver un endroit tranquille dans un contexte qu'on a envie de découvrir. Pour moi, c'est une merveilleuse façon de voyager. Puis sincèrement, si je regarde a posteriori, avec le recul, en fait, souvent, c'est ce qui m'a amené aussi à voyager, c'est de pouvoir marier les deux, de pouvoir m'installer dans un endroit, dire je peux faire mon travail et le soir, ben pouf, je m'en vais explorer un petit peu ou en après-midi. Moi, je trouve que c'est le meilleur mode de vie. Puis ça rejoint aussi les valeurs de slow travel, c'est-à-dire qu'on ralentit, on passe plus de temps dans une destination. Pour moi, tout ça mis ensemble, c'est, en tout cas, en date d'aujourd'hui, c'est ce que je préfère parce que pour vrai, j'aime ça, moi, travailler. Je ne fais pas partie des gens qui rechigne à écrire un texte. Oui, des fois, ça ne me tente pas, mais j'aime ça, travailler. C'est pas un sacrifice pour moi de travailler. Puis ça me permet de gagner ma vie, donc il faut que je le fasse. Et de le faire dans un cadre que ça nous tente d'explorer, ben, ça alimente encore plus, justement, les futurs reportages, ça alimente les idées. On rencontre des gens qui font la même chose ou qui font complètement autre chose, mais qui vont nous amener de l'eau au moulin. Moi, je vois tout ça dans une espèce de perspective d'échange, puis de renouvellement de l'inspiration. Et oui, se poser dans un endroit en solo, quand il n'y a personne autour, ça permet parfois d'aller bien plus vite dans le travail.
Oui, puis c'est une autre façon de découvrir un lieu parce que c'est, tu
Vraiment.
sais, le fait de travailler pendant la journée, en tout cas avec les
Ouais.
fuseaux horaires qui jouent là, mais de travailler
Oh,
pendant la journée, de sortir aller faire son épicerie ou de
ouais.
sortir aller manger puis après de revenir, on n'est pas dans le même rythme que si on part à la
Tout à fait.
découverte 24 heures sur 24 en voyage, là. C'est pas
Oui,
pareil.
puis en 2024, moi, j'ai vécu au début des années 2000, je vivais à Taïwan, en Asie, et j'avais un ordinateur portable, donc je m'étais organisée dans l'endroit où je vivais, j'avais les fils, je pouvais me brancher, je pouvais travailler de là, mais à un moment donné, tout a lâché. Mon ordi a lâché, Internet a lâché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à aller fréquenter assidûment les fameux cybercafés de l'époque, qui étaient très
Avec beaucoup
bruyants,
de gamers à côté.
très enfumés, très bruyants, parce qu'il y
Ah
avait beaucoup de gamers tout autour, et surtout avec un clavier chinois.
oh
Fallait
oui.
que je copie et colle les accents, tout ce qui est ponctuation en français, fallait que je copie colle tout ça. Donc, c'était une autre expérience. Honnêtement, j'en garde des souvenirs exaspérés, mais parfois émus aussi, parce qu'il y avait quelque chose de fascinant de me dire, OK, là, je suis vraiment dans. Mais il fallait que je me concentre. J'ai appris à me concentrer dans des contextes. Je pense que c'est là où j'ai commencé à développer mon hyper-focus, dans des moments où il faut que je livre quelque chose puis être vraiment concentrée. Puis même encore, parfois, je cherche à reproduire. J'aime ça parfois aller dans des cafés où c'est le bordel parce que ça me force à rester concentrée. Bref, là, on tombe dans la psycho. Mais j'ai vécu ces époques-là aussi. Il y avait des endroits qui étaient ouverts 24 heures. Il y avait des endroits, c'était vraiment des lieux de vie fascinants où effectivement, il y avait des gamers 1 à 99%, puis moi, j'étais l'espèce d'extraterrestre qui louait un ordinateur à côté. Mais c'était une façon de travailler à l'étranger avant l'époque du télétravail ou du nomadisme numérique. Tu sais, c'était pas aussi facile de transporter son bureau. Aujourd'hui, ça l'est. Ben, pourquoi ne pas en profiter quand on peut? Quand on peut surtout rester plus longtemps, qu'on essaie d'apporter un peu plus à l'économie, disons, locale en choisissant les lieux où on va aussi. Puis bon, évidemment, on n'essaie peut-être pas de prendre l'avion trop souvent, parce que je le dis souvent, c'est l'affaire qui dommage le plus, là. Mais quand on peut combiner plusieurs choses ensemble, moi, je trouve que les conditions sont réunies pour quand même trouver son bureau pas mal plus intéressant.
Est-ce que ça existe, le paradis ou de très bonnes destinations pour des nomades numériques? Et puis ça, je pense autant à l'étranger qu'au Québec, là, ou au
Ouais,
Canada.
il y en a plein, mais au Québec, il y en a des tonnes. C'est ça aussi, tu sais, les gens. J'ai écrit un article sur avenue.ca récemment parce que c'est avenue.ca, c'est un site qui existe, qui a été créé par la FADOC. Donc, on s'attend à ce que ce soit surtout des retraités. Mais c'est une dame de 75 ans qui avait écrit au site en disant qu'elle aimait me lire puis que ça l'intéressait beaucoup d'avoir plus d'informations sur le télétravail parce qu'elle continue à télétravailler. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les codes du travail sont liés, on n'arrête plus forcément, sont mélangés, puis on n'arrête pas forcément de travailler à 65 ans. La retraite, c'est plus la même chose qu'avant. Et c'est une belle façon, même au Québec, de justement découvrir notre province. Puis parfois, en tombant sur un lieu qui nous semble parfait pour aller travailler, on découvre une place, mais une ville, un village auquel on ne serait peut-être pas intéressé. Puis finalement, il y a plein d'opportunités, tu sais. Puis bon, là, je parlais de Vaolo. Vaolo, ils en ont des destinations québécoises qui sont mises de l'avant. Ça, c'est une bonne piste pour les gens qui veulent aller fouiller dans leur section dédiée vraiment à ces rabais en télétravail là. Il y a des projets qui existent aussi. Il y en a un qui s'appelle Remote Year. Et ça, c'est en discutant avec quelqu'un que j'ai interviewé récemment à Marianne Aigboisvert pour un article, ben pour l'article dont je parlais justement. Elle me rappelait l'existence de cette compagnie-là qui permettait d'aller télétravailler pendant un an quelque part. Puis là, on parle d'il y a une dizaine d'années, je pense. Non, pas ben, presque une dizaine d'années. Je pense que c'est 2016 que ça a été fondé. En tout cas, dans ces années-là. Et en gros, on partait un an. Maintenant, ils ont créé des forfaits d'un mois. Donc, eux, ils prennent en charge toute la logistique pour organiser qu'à destination, on ait un endroit où loger avec tout l'équipement nécessaire pour travailler adéquatement. Puis c'est une communauté, donc eux, ils favorisent justement les discussions entre les gens qui pratiquent ce genre de séjour-là, de télétravail. C'est, je dirais, comme le nomadisme numérique, c'est plus forcément d'être longtemps, pendant des mois, à ne faire que ça. Il y a comme vraiment une nouvelle façon, je trouve, que je remarque, en tout cas, d'aller juste télétravailler pour des courtes périodes, souvent c'est pour changer le mal de place, c'est pour couper l'hiver en deux, c'est pour justement aller vivre autre chose à travers son expérience de travail. Donc, il existe plusieurs options comme ça. Au Québec, il y en a plein, plein, plein. J'étais au Spiceman il y a quelques semaines, qui ne mise pas du tout sur le télétravail, là, je tiens à le dire, parce que ça reste un lieu où on prend soin de soi. On va là pour prendre soin de soi d'abord et avant tout. Mais je trouve ça intéressant parce que quand on regarde la liste de leurs forfaits, ils ont quand même un forfait qu'ils appellent télétravail. Donc, on peut très bien télétravailler. Et moi, comme j'avais des deadlines, j'ai pas pu complètement me laisser dorloter et profiter pleinement de tout ce qu'il y avait sur place parce que je devais travailler. Mais encore là, c'était pas un sacrifice parce que j'étais fichtrement bien installée dans un endroit silencieux, agréable, confortable. J'étais nourrie parce que ça faisait partie du forfait et très bien nourrie. Genre, pas de gluten, pas de produits laitiers. Tu sais, vraiment, c'est comme quelque chose où on prend soin de soi, puis en même temps, ben, moi, pour moi, c'était un sacré beau bonus de pouvoir travailler dans un espace hyper calme. C'était génial. Donc, il y a des options comme ça auxquelles on ne pense pas, qui existent.
À l'étranger, ça pourrait ressembler à quoi?
À l'étranger, moi, j'ai découvert les hôtels, les hostels, plutôt Célina, lors de mon récent voyage en Colombie, et j'ai adoré la formule. C'est des auberges de jeunesse. Donc, quelqu'un qui veut aller dormir dans un dortoir à moindre coût peut le faire, mais il y a aussi des chambres privées pour les plus vieux et un petit peu plus douillets comme moi, qui en grandissant, peut-être en le sommeil plus léger et envie d'un peu plus. Ça n'a pas besoin d'être un grand espace, juste fermé puis que la salle de bain soit dans ma chambre. Ça me convient. Donc, ça permettait justement d'allier le tourisme, parce que j'ai quand même fait pas mal de tourisme malgré tout. Puis là, à Carthagène particulièrement, moi, ce que j'aimais, c'est que j'étais littéralement dans le même bâtiment. Moi, bon, moi, c'était le bâtiment d'en face dans ce cas-ci, mais l'espèce d'espace de coworking, il y a une petite terrasse, donc on peut aller dehors travailler si on en a envie. Il y a deux étages avec vraiment des salles différentes, des salles fermées. Il y a une espèce de cabine téléphonique pour les gens qui ont des appels à faire. C'est tellement bien pensé. Puis Célina, c'est une chaîne, il y a plusieurs autres ben, hostel, auberge, comme ça, à travers l'Amérique du Sud, surtout, mais un peu partout. Donc, pour moi, c'est une belle option, une belle découverte. C'est clair que je vais le refaire. Là, je mijote déjà l'idée d'aller étudier l'espagnol en matinée, puis travailler l'après-midi dans un lieu comme ça. Puis, je regardais des écoles, puis des adresses, puis j'ai trouvé deux endroits où il y avait un Célina pas loin, à Antigua et à Lima. Donc, là, je suis en train de mijoter ça pour l'hiver prochain, là, puis ça m'excite beaucoup, ce genre de projet-là. Parce que c'est ça, c'est agréable de mélanger tout ça. Moi, j'aime ça, j'aime ma bulle de travailleuse. Mais j'aime aussi parfois juste aller jaser avec quelqu'un parce que ça donne qu'on est dans un même lieu ou en train de faire la même affaire ou juste dans un bar d'auberge. Tu vas boire un verre, tu vas manger, tu tombes sur des gens, tu te mets à jaser. J'aime cette espèce de mélange-là. Je peux avoir la sainte paix, puis je peux avoir un côté social si j'en ai envie.
Est-ce que l'Asie du Sud-Est, ça demeure aussi encore
Ah
un bon
ouais.
lieu? Ouais.
Ouais. Mais moi, ça restera toujours pour moi mon coin du monde, chouchou pour plein, plein de raisons. Puis c'est vrai que c'est facile. Puis ça aussi, je suis allée souvent en Thaïlande pour plein de raisons. Puis je me retrouvais toujours à travailler parce que j'avais des dates de tomber. Puis la vie fait qu'il faut que je gagne ma vie. Et sincèrement, ça a toujours été assez simple. Mais ça en fait partie aussi des endroits où j'ai copié-collé des accents, là, dans les cafés enfumés à l'époque. Mais oui, ça reste vraiment une des destinations de choix. Il y a des communautés, par exemple à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, qui sont très, très bien structurées. Je pense à Jean-Michel Dufaux aussi, qui est un journaliste, mais surtout un animateur et grand voyageur, qui a vécu pas mal aussi dans ces coins-là. Puis lui aussi, il a toujours trouvé moyen de travailler sur place, dans des cafés. Il y a plein de cafés merveilleux aussi où on peut travailler. Ça dépend de ce qu'on recherche. On peut trouver des espaces de coworking facilement. Puis il existe aussi une carte. Pour les gens qui se demandent, mais où je pourrais aller faire ça, moi, du télétravail, il existe une carte, je ne me rappelle plus de son nom précis, là, il faudrait que je la retrouve, je l'avais mentionné récemment, une carte dans laquelle on peut fouiller. Ah, ça s'appelle Cowork Maps, je l'ai devant moi. Cowork Maps. Et cette carte-là peut nous dire où il y a des espaces de coworking, si on va dans une ville, par exemple, puis qu'on cherche ce genre d'endroit-là. Donc, ça peut être chouette. Puis, il y a aussi, tu sais, l'industrie du tourisme, des auberges, ça a beaucoup évolué aussi au fil du temps, hein. Puis, il y a comme une espèce de mélange qui se fait. Je trouve la frontière entre les deux, parfois, est assez mince. Il y a une chaîne que j'adore, moi, qui s'appelle Citizen M. C'est vraiment un hôtel, des petites chambres confortables, axées sur le tourisme durable, rien, pas de flafla. Mais ils ont des espaces de coworking. Donc, si on a envie de plus grands espaces avec vraiment de la place, on en trouve un peu partout en Europe, on en trouve aux États-Unis beaucoup aussi. Moi, quand je sais qu'il y a un Citizen M dans le coin, généralement, c'est là que je vais si j'ai pas envie de me casser la noix, parce que je sais que je vais avoir du bon Internet, puis un endroit où bien manger, prendre une bouchée et travailler.
Tu parles d'un bon Internet. Comment on évalue les infrastructures pour préparer son voyage ou son séjour?
Moi, j'ai peut-être la paresse là, de faire tous les tests, machin, savoir combien. Je sais qu'il y a des gens qui louent des Airbnb puis qui demandent vraiment d'avoir des captures d'écran pour prouver que l'Internet est efficace, là. Moi, généralement, je m'assure, avant même de partir, la première question que je pose, c'est comme à quoi ressemble votre Internet? Puis, tu sais, généralement, les gens sont assez, ils vont pas me bullshitter parce que c'est clair que si la cliente est fâchée parce que c'est ce qu'elle cherche en numéro un, ça va pas bien. Mais tu sais, ça m'est arrivé aussi, pendant que j'étais en Colombie, il y avait un endroit où j'avais très envie d'aller. Internet fonctionnait pas bien, mais le réseau de cellulaire marchait très bien. Donc, j'ai pu aussi, pendant, c'était pas une longue période, c'était seulement quelques jours, j'ai pu travailler en branchant seulement mon réseau de cellulaire aussi. Ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à une certaine époque où ça coûtait bien, bien cher de faire ça, tu sais. Donc, il y a ça aussi à évaluer dans l'équation, à quel point, combien de temps on est sur place, à quel point on a besoin d'un Internet performant. Moi, je fais pas des Zooms tous les jours non plus en voyage. Je vais peut-être parfois faire des chroniques radio à distance, mais dans ces cas-là, je vais vraiment m'assurer que justement Internet est adéquat. Puis souvent aussi, quand on regarde les commentaires des usagers dans les lieux où on loue, ça vient assez vite dans les commentaires.
Marie-Julie, en terminant, quel conseil tu donnes à des gens qui y pensent depuis un moment où là, sont sous le charme de dire, ah ouais, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. C'est quoi le conseil le plus important que tu leur donnes?
S'assurer effectivement qu'Internet où ils vont aller va être viable ou fonctionnel pour leurs besoins. Le décalage horaire, ça peut être une tranche importante. Moi, j'ai adoré le fait qu'il n'y avait pas de décalage quand j'étais en Colombie. C'est hyper pratique. Par contre, quand je suis en Europe, j'aime bien, bien ça aussi, avoir un peu plus de temps le matin pour finir mes textes que j'aurais probablement livré en retard dans la journée. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Puis peut-être, quand on parle d'initiation ou des gens qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de séjour-là, il y a des options aussi qui existent du côté de Transat et Sunwing. Transat le fait en premier, là. C'est une espèce de collection hors du bureau. Ils ont identifié des tout inclus où on peut aller pendant 2 semaines ou plus. parce qu'ils ont des bonnes connexions Internet. Donc, on se retrouve, par exemple, au Panama ou au Mexique ou quelque part, et on a vraiment notre forfait tout inclus, mais avec un petit bureau, un espace pour travailler dans notre chambre et une bonne connexion Internet. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi comme type de forfait. Donc, forfait collection hors du bureau du côté de Transat, puis je sais que Sunwing a l'équivalent aussi. Ça peut être une chose chouette pour les gens, justement, qui cherchent une courte période, mais quand même avec un peu de confort, là. Puis bon, il y a des gens à suivre aussi qui l'ont fait à plusieurs reprises. Dans mon article sur avenue.ca, je parlais entre autres de Maude Carrier, je parlais aussi de Béatrice Bernard Poulin, qui sont allés dans des endroits, entre autres, comme le Honda Hostel en Équateur. Donc, il y a plein d'endroits qui misent aussi sur cette clientèle-là qui est de plus en plus, qui répond à l'appel de plus en plus, là. Je pense qu'on recherche ces lieux-là et le mot se parle bien vite. Bref, il faut se renseigner puis réserver quand on est prêt, parce que parfois, à certaines périodes de l'année, disons que l'hiver, quand il fait bien, bien froid au Québec, généralement, on a tendance à se ruer vers ces beaux bureaux au soleil, pas mal tous en même temps.
Marie-Julie, je vais rappeler que l'article dont tu parles, il y a un hyperlien que j'ai mis sur la
Oui.
page descriptive de l'épisode, et donc les gens pourront se rendre là. Sinon, vous allez sur avenue avec es.ca et vous
Ouais.
cherchez Marie-Julie Gagnon. Vous allez voir, il y a un florilège de ces textes, de ces chroniques depuis bon nombre d'années. Je
Oui.
rappelle qu'à part d'être nomade numérique, tu es journaliste voyage notamment,
Oui.
et puis qu'on peut retrouver de tes livres aussi en librairie. Alors, Marie-Julie Gagnon, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de ton temps entre deux destinations pour
Ah,
partager comme ça ton
merci
savoir.
Bruno, mais c'est bon aussi télétravailler de chez soi. On appelle ça du télétravail à la maison, non, hein? Oui.
Ouais, ça c'est pas mal ça. Ben, merci beaucoup, puis à la prochaine.
Merci.
Bye.
Bye bye, salut, merci.